1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann pour une nouvelle semaine de l'émission Le Grand Tout. On est ensemble pendant une heure, comme tous les jours, du lundi au vendredi, 17h-18h. Ça, c'est pour la première rediff, puisque l'émission est rediffusée du mardi au samedi matin, de 9h à 10h. Une émission qui, aujourd'hui, eh bien, vous dira quelques mots sur le Binic Folks Blues Festival, qui se déroulera les 24, 25 et 26 juillet prochains à Binic, proposé par la Nef des Fous. On écoutera quelques-uns des noms annoncés hier, annoncé dimanche en tout cas. On retrouvera aussi un disque d'or de la semaine dans quelques secondes, et puis on parlera longuement avec Bruno Collet, réalisateur de films d'animation, qui voit son film Atomic Tour montré au Festival National du Film d'Animation qui commence tout juste ce mardi 7 avril et qui se déroulera jusqu'au 12 avril. Toutes les infos sur festival-film-animation.fr. Une nouvelle semaine égale un nouveau disque d'or de la semaine, c'est Outsider qui sort ce vendredi 10 avril pour le musicien soul parisien T.Y.O. Après deux albums sortis pour les labels Yotanka et Blue Note, eh bien, il sort un nouvel album ce vendredi produit par Adrian Quesada des Black Pumas. On est dans une soul âpre, rugueuse et avec quelques belles idées qui vont du côté un peu Latin Soul ou plutôt blues même parfois. Voici pour débuter l'émission aujourd'hui ce titre Peacemakers sur l'album Outsider sorti sur le label Records Kicks. Bonne émission.
And
dans la page culture de l'émission Le Grand Tout que vous écoutez en ce moment sur Canal B. On va commencer à s'intéresser à quelques films qui sont projetés dans le cadre du Festival National du Film d'Animation. Aujourd'hui, on va parler avec Bruno Collet. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Qu'on ne présente plus ici à Rennes, mais même à Hollywood, on ne le présente plus non plus quand même. Un réalisateur qui avait été sélectionné pour les Oscars. Alors,
voilà, on était 5 en compétition, ouais. On était 4 à perdre.
Voilà, c'est ça. Mais c'est pas forcément pour ça qu'on fait du cinéma, je suppose. C'est dans la sélection numéro 5 de la compétition officielle du festival que vous allez pouvoir voir Atomic Tour, un court-métrage d'animation en stop-motion avec toujours un procédé que vous avez déjà utilisé, ce qui ressemble à de la glaise comme ça, et qui en est peut-être d'ailleurs.
Non,
non,
c'est,
pas
c'est,
du tout.
C'est une tromperie, hein. C'est du cinéma.
C'est ça.
Non, c'est 24 mensonges par seconde. Oui, effectivement, il y a presque un peu plus de 15 ans, j'avais fait un film sur la guerre 14-18 qui s'appelait le Jour de Gloire. Et on avait fait les décors en pâte à modeler et quelques personnages en pâte à modeler. Et on s'était rendu compte que c'était quand même assez fastidieux à animer. Donc on en avait tiré deux en silicone avec exactement la même texture. Et cette technique, je l'ai réutilisée. Donc vous avez parlé du... vous avez fait un petit point sur les Oscars. Donc mon avant-dernier film qui s'appelait Mémorable utilisait cette technique donc de sculpture, mais tirée en mousse de latex en l'occurrence. Et on a utilisé la même technique pour Atomic Tour, ce qui permet qu'à cet aspect très, très brut, très matière, mais qui a un gain de temps énorme au tournage, une facilité pour les animateurs.
Alors, ce que c'est ce film Atomic Tour, eh bien c'est l'histoire de Hugo qui cherche à tout craint du like sur Insta. On voit ce qu'il voit à travers l'écran de son smartphone. Il s'adresse à sa commu, hein, comme on dit, et il les appelle ses petits trouillards. Et il faudrait peut-être que lui le soit un peu plus trouillard, sans doute, parce qu'il va lui arriver des misères. Mais on le sait dès le début, en fait, qu'il va lui arriver des misères. Ouais. Si on regarde bien le personnage qu'on a, qui arrive dans une ambulance, comme ça, il a une chapka sur la tête, un compteur GIGN autour du cou. On va revenir peut-être à une date que certaines ont encore en mémoire, évidemment le 26 avril 1986. Je vous demande pas, Bruno Collet, où vous étiez ce jour-là.
Si, vous pouvez me demander. J'étais à Rennes et j'étais en deuxième année des Beaux-Arts de Rennes.
Et comme tout le monde, vous avez été choqué par cet accident nucléaire qui s'est produit à Tchernobyl.
Bah, qui paraissait très lointaine à l'époque, mais heureusement, et il le dit dans le film, heureusement le nuage radioactif s'est arrêté aux frontières françaises. Mais oui, c'était un choc, surtout que on est encore en Union soviétique et le secret est de mise pour tout événement et surtout pour un accident nucléaire. Donc on met pas mal de temps. C'est-à-dire qu'on découvre cet accident avant qu'il soit annoncé par les dirigeants soviétiques. Par des analyses de l'air, on se dit il y a quelque chose qui s'est passé, mais quoi ? Puis petit à petit, on découvre la vérité et on découvre que le drame continue. On ne sait pas comment arrêter cet apocalypse nucléaire qui est en train de se mettre en place à Tchernobyl.
Elle n'est pas née là, l'idée sans doute d'Atomic Tour dès 1986, mais
non.
Ça fait combien de temps que vous l'aviez en tête, ce film-là ?
Oh, ça fait... c'est très long, l'animation. C'est très long à tourner, mais le plus long, c'est de trouver les financements. Donc cette idée, elle a plus de 10 ans, où je tournais autour et je ne savais pas comment attaquer ce projet. Et puis c'est en découvrant sur les réseaux des gens à Tchernobyl, mais aussi dans des camps de concentration. Surtout, il y avait des images sur le mémorial de Berlin, le mémorial de la Shoah, où il y a des gros blocs de granit, et il y avait des gens qui s'amusaient à prendre des postures assez décalées par rapport au lieu. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre un YouTuber comme personnage principal et je vais lui faire visiter... Parce qu'il y a des visites qui sont... Bon, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, c'est un peu plus limité, mais il y a des marchands de glace, il y a des vendeurs de t-shirts et de casquettes, et le youtubeur décide d'aller faire un tour dans ce lieu de pèlerinage morbide.
c'est un film, comme beaucoup de ceux que vous avez fait, qui va un peu jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Le sujet est dramatique, forcément, mais il est pris avec légèreté quand on est, quand on voit ce que voit Hugo et comment il parle à nous, en fait, et à sa communauté de followers sur YouTube et sur Instagram. Et le drame va se dévoiler progressivement et il y a une belle façon, évidemment, de rentrer dans les lieux. C'est vrai que l'urbex se pratique ou s'est pratiqué avant cette guerre qui a cours en ce moment en Ukraine. Il y a des moments très poétiques comme ça qui vont apparaître, je veux pas les dévoiler parce que en une douzaine, 13 minutes peut-être, il y a des chocs comme ça qui arrivent au fur et à mesure. Le plus choquant peut-être, ça va être une photographie dont je ne sais pas si elle est vraie, si elle a été fabriquée par vous, puisqu'on rentre dans une salle de classe en fait, et c'est en touchant une map monde que Hugo va se prendre une grosse dose de radioactivité comme ça, et bon, ça va pas aller très bien pour lui, mais peut-être ça ira mieux, on verra bien. Il y a vraiment ce côté très dur en fait. Cette photo-là, elle est venue comment en fait ?
Alors, la photo du film est basée sur une vraie photo, mais pour des questions de droit, on a été obligé de modifier légèrement les visages.
On va entendre peut-être, alors c'est peut-être les enfants qui auraient pu chanter ce qu'on va entendre là, qui sont représentés. Vous verrez, j'espère, en tout cas, ce très beau Atomic Tour qui est montré trois fois dans la sélection compétition numéro 5. Pendant que les champs brûlent, belle chanson de Niagara, on s'en souvient. C'est mercredi à l'Arvor, jeudi aussi, et puis vendredi à la salle Jouvet du TNB. Vous entendiez un extrait de la bande-son du film Atomic Tour de Bruno Collet, notre invité aujourd'hui. Il est montré ce film dans le cadre du Festival National du Film d'Animation à Rennes. Ça commence ce mardi et ça se déroulera jusqu'au 12 avril. Ne ratez rien, évidemment. Pendant que les champs brûlent, c'est le programme dans lequel est montré le film. On comprend bien qu'il y est question d'une planète qui est un peu en train de brûler, une planète toxique. Elle est bien montrée, cette planète toxique, dans le film Atomic Tour, à travers cette map monde que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on écoutait à l'instant, Bruno ?
Alors, cette musique a quand même un rôle important dans le film, mais moi je voulais que ce soit une vraie chanson. Une vraie chanson que les élèves des années 80, en Ukraine ou en Russie, apprenaient à l'école. Et c'est une coproduction tchèque, ce film. Et donc je suis à Prague avec le producteur tchèque et je lui parle de cette recherche de chansons et il me dit lui qui a mon âge, qui a un certain âge on va dire, me dit ah ouais nous tous les matins on devait chanter une chanson. Je lui dis ah oui, tu peux me la faire écouter. Donc il cherche vite fait sur son portable, sur son ordi, et on est dans le bar de l'hôtel et il me passe la chanson chantée par des enfants, une chorale. Et au fond du bar, il y a un gars qui se lève et qui commence à gueuler, on va dire, en tchèque. Et je demande au producteur, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ouais, il y en a marre de cette chanson qu'on nous obligeait à apprendre en russe. Et je lui dis, il me faut cette chanson. Donc le problème, c'est une question de droit. C'était des Russes en majorité qui avaient les droits, qui vivaient soit en Russie, soit aux États-Unis. Donc, en fin de compte, ça a été assez facile d'avoir les droits. Et on a réenregistré donc en russe cette chanson qui a été chantée à l'époque et qu'on peut retrouver sur YouTube, la version des années 70.
Il y a le fonds audiovisuel tchèque qui a un rôle important. Quel rôle exactement ?
Ils se sont occupés de tout ce qui était décor. Et une grande partie du son du film, donc les décors ont été fabriqués à Prague et sont arrivés en camion ici. Et puis j'ai eu un chef opérateur aussi qui était tchèque et un animateur. L'animation en stop motion, c'est beaucoup de temps, donc c'est des budgets qui sont assez conséquents. Et depuis plusieurs années, on fait des coproductions européennes.
Vivement Lundi vous accompagne depuis, bon, est-ce qu'on peut le dire, depuis très très longtemps maintenant.
Depuis une trentaine
depuis
d'années.
Depuis le début, ouais. Pratiquement. Ils sont les plus fidèles et les plus nécessaires, évidemment, à la production de ce type de cinéma. Vous le disiez, c'est très long. Alors, on le sait, ça fait un peu tarte à la crème. Ça veut dire que le cinéma d'animation, ça prend longtemps. Mais si votre dernier film mémorable datait de 2019, là, il est sorti, il a été montré pour la première fois en festival l'année dernière, celui-ci. Est-ce que c'est vraiment 6 ans non-stop à faire ce stop motion, à se faire ce film en stop motion?
Non, non. Le temps en moyenne pour un, on va dire, un film de 10-13 minutes, c'est pour ma part, c'est 3 mois de construction de décors et de marionnettes, 3 mois de tournage et 3 mois de post-production qui comprend tous les effets spéciaux, la musique. Donc on est sur 9 mois, une gestation pour un film d'animation. Le reste du temps, je monte des dossiers, je fais des recherches graphiques et puis je travaille surtout sur d'autres films où je suis simple décorateur ou chef déco. Un boulot qui est en parallèle de celui de réalisateur et moi qui me soulage parce que j'ai pas à me soucier des soucis du film sur lequel je travaille, donc c'est complémentaire. Et puis ça refait redescendre des Oscars, de travailler pour un autre après, c'est très bien pour l'ego de temps en temps se retrouver dans les ateliers.
Vous aviez été décorateur notamment sur L'Homme au bras ballant très 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 longtemps, et lui a eu un
siècle
succès
dernier,
international.
Ouais, c'était notre premier court-métrage sélectionné à Annecy. Ça doit être les années 80, fin 90.
Avec une musique de Yann Tiersen, il me semble.
Ouais, c'était la première fois qu'il faisait une musique pour un film. C'est dont on est avant Amélie Poulain. Et le film a le prix du jury à Annecy. Et d'un seul coup, on se dit, mais il se passe il y a des 2-3 bricoleurs à Rennes qui arrivent à faire des choses qui tiennent la route.
S'ils font un temps considérable, voire considérablement long, vous avez compris, pour réaliser un film d'animation, ou un film en général, de toute façon, évidemment, on ne peut pas le réaliser tout seul, évidemment. Il y a l'équipe de production autour, vous avez parlé du rôle des Tchèques sur les décors. Il y a une équipe à Rennes qui a mobilisé combien de personnes?
C'est assez étalé, on part sur 9 mois, même si il y a la moitié de l'équipe qui était tchèque, on est autour de 25 personnes qui travaillent sur un court-métrage comme ça. On a la chance à Rennes d'avoir deux maisons de production, donc Vivement Lundi et JPL Film. Et ces deux maisons de production permettent aux techniciens de travailler dans les deux structures. Donc, et ça depuis plus de 25 ans, donc ça a permis d'avoir des gens qui restent à poste dans la ville et d'avoir un vrai creuset de techniciens qui sont maintenant bien reconnu au national et à l'international.
La question qu'on peut se poser, c'est comment viennent les idées. On peut voir dans votre carrière des côtés plus comiques, peut-être légers au début, et puis au fur et à mesure,
ça
va
s'aggrave.
Arriver la guerre, va arriver la maladie, vont arriver les souvenirs d'un ancien combattant dont on ne savait pas qu'il avait fait l'Indochine, peut-être. Est-ce que c'est le monde qui s'est transformé et qui vous a fait changer, ou est-ce que vous avez tout ça en tête, évidemment, et que ça peut passer d'un côté à l'autre assez facilement?
Non, je pense pas. Je pense que c'était présent dès le départ. Au Beaux-Arts, mon diplôme était déjà de mettre en... Donc c'était les sculptures. Je mettais en boîte ma famille, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Mon premier film qui s'appelait Le dos au mur, c'était l'histoire d'un arrêt bergère, les petits bonhommes qui sont fichés dans les façades de maisons pour retenir les volets ouverts, et on voyait sa vie à travers la façade qui se délitait, le temps qui passe, et ce personnage qui était bloqué dans ce mur. Donc la mémoire a toujours été le thème central de mon travail, mais il est noir. J'ai fait un film sur Bruce Lee qui a eu des prix dans des festivals d'humour, mais c'est vrai que c'est souvent un peu noir, mais l'ironie y est présente quand même. Il y a toujours une petite pointe, ne serait-ce que dans le titre de, par exemple, Le Jour de Gloire, sur un film où il y a énormément de morts quand même, il est quand même très ironique.
On voit aussi un goût pour l'hommage Bruce Lee, vous le citiez à l'instant, dans un cours qui va peut-être renvoyer vers un peu Toy Story peut-être, hein, c'est possible, puisque c'est l'histoire d'une poupée qui sort de sa boîte, la poupée de Bruce Lee. Et puis il y a aussi eu cet hommage il y a longtemps à Robert Mitchum dans Calypso.
Vous connaissez ma carrière par cœur.
En tout cas, un personnage comme Robert Mitchum, par exemple, à quel moment vous avez eu envie de le transformer en personnage d'animation ?
Alors, c'est une idée du producteur, Jean-François Lecor, qui parle de Mitchum, mais Mitchum en tant que chanteur. Il chantait des albums de Calypso avec la voix un peu cramée par le whisky et les cigarettes. Et il me dit, ouais, t'aurais pas envie de faire un clip avec une marionnette à l'effigie de Mitchum. Et je commence à travailler dessus, à regarder pas mal de films, parce que c'est plus de 130 films. À l'époque, c'était la grande époque des studios où les acteurs étaient sous contrat et donc tournaient énormément, et lui tournait avec tout le monde, de John Wayne à Marilyn. Et le projet avance et on se rend compte qu'on ne va pas avoir les droits de la chanson sur laquelle on avait travaillé. Drink the coconut water, I cannot get in America. What is the tonic, man? Drink the coconut water, the jelly. Drink the coconut water. Yes, it is a builder. Drink the coconut water, I cannot get in America. Mais j'avais tellement vu de films, et puis à l'époque on est encore en VHS, et je commence à m'amuser à faire une sorte de patchwork où il rentre dans un saloon, mais en fin de compte il est dans une grotte habillé en militaire, et je me rends compte qu'en utilisant tous les grands rôles de sa filmographie, je pourrais peut-être raconter un film, et ça devient ce personnage, une sorte de fantôme de plateau de tournage qui va rejouer ses plus grands rôles. Dès que quelqu'un arrive sur ce plateau, en l'occurrence c'est une journaliste qui arrive un peu par accident, et il va s'en servir comme faire valoir pour revisiter sa carrière.
Donc encore une fois un travail sur le temps.
Sur le temps, hommage, et ce film va devenir le pilote d'une petite série. Donc une coproduction de Vivement Lundi et de producteurs suisses, et vu que j'avais fait le pilote de cette série sans le savoir à l'époque, on me demande est-ce que je vais en faire un deuxième, et je me dis je vais prendre un personnage très différent, parce que j'ai été présenté pas mal le film de Mitchum à travers le monde, on va dire, mais très peu de personnes, enfin le jeune public connaissait pas du tout Mitchum. Et même aux États-Unis. Et je me suis dit, si je refais un film hommage à un acteur, je prendrais quelqu'un que tout le monde connaît. Et il y a eu encore pas mal de temps, comme on en parlait tout à l'heure, entre deux films. Et ça m'a permis de tester plusieurs acteurs. Et Bruce Lee, étonnamment, même si les gens n'avaient pas vu aucun de ses films, connaissaient sa tête, connaissaient ce gars en pyjama jaune à rayures noires. Et c'était tellement l'opposé de Mitchum, parce que Mitchum il courait pas, il avait des mains comme des battoirs, il attendait, il foutait une baffe. Donc je me suis dit, ouais, là on va pouvoir faire des scènes de combat, et l'hommage sur Bruce Lee est né comme ça, et les deux ont fini, Mitchum et l'hommage à Mitchum et à Bruce Lee ont fini aux États-Unis, et les ayants droit à chaque fois ont demandé à voir le film. Ça nous a fait très peur la première fois. C'était la nièce de Mitchum qui s'occupe des droits, et elle a bien aimé le film. Et donc dès que ça touche au territoire américain, les ayants droit, ils se réveillent. Quand ça se passe en Europe, ça a l'air très très loin pour eux. Et pour Bruce Lee, c'était sa fille. J'ai fait une grosse erreur dans le film, c'est qu'à un moment, il est sur cette marionnette et sur un tapis de souris où c'est marqué Bruce Lee. Et Bruce Lee est déposé, c'est comme une marque. Donc elle voulait nous attaquer, mais elle a aimé le film aussi. Elle a juste demandé à faire la distribution du film sur le territoire américain. Donc en fin de compte, ce qui nous a fait très peur, en fin de compte, c'est une validation par la fille de Bruce Lee du sixième film de son père. Donc voilà, cette histoire, c'est bien fini.
У вас есть 35 секунд, чтобы разобрать максимум завалов, ясно?
Да точно!
Все ясно, не слышу!
Да точно!
Je suis touriste, moi. I'm a tourist.
35 секунд! Начали!
On va revenir peut-être à Atomic Tour, c'est ce film qui est montré ici au Festival National du Film d'Animation. On ne fait pas du cinéma pour participer à des festivals et avoir des prix, mais tout de même, il commence déjà à avoir une carrière, ce Atomic Tour, avant d'être montré à Rennes. Il a été montré ailleurs.
Oui, il a une carrière pareille, hein, au niveau des festivals, c'est à l'international. Mais il met plus de temps à trouver son public, c'est... Et il intéresse, j'ai l'impression que le cœur de cible est plutôt un public assez ado, qui doit se reconnaître dans l'utilisation du
smartphone, peut-être, smartphone. Et puis de la façon dont s'exprime Hugo,
oui.
C'est sûr. Vous êtes inspiré de jeunes gens autour de vous pour sa façon de parler, genre ses tipards, par exemple.
Ça a été très compliqué pour moi. Parce que c'est une langue qui est en éternel mouvement, et ce qu'on a fait il y a un an, les expressions peuvent déjà être dépassées, remplacées par de nouvelles. Donc je vais retourner pour le prochain, je retournerai à des valeurs un peu plus anciennes, parce que...
Plus universelles peut-être.
Plus universelles, ouais. Mais il y avait le challenge pour moi était technique aussi sur ce film, parce qu'il fallait filmer, enfin une grande partie du film passe à travers l'écran de son smartphone, et au départ j'étais parti moi avec cette idée de mettre le smartphone à l'horizontale, donc on retrouvait quasiment le cadrage d'un écran de cinéma, et mes enfants m'ont dit mais c'est un truc de daron, personne filme comme ça, le téléphone il doit être à la verticale, et si je mets le téléphone à la verticale, moi il fallait bien que je meuble à droite, à gauche, et surtout quand il se filme en selfie, il fallait aussi qu'il y ait des choses derrière lui, donc il y avait une sorte de il y a eu un double voire triple tournage pour pouvoir tout intégrer sur l'écran, et ça c'était assez, voilà, je l'ai fait une fois ce challenge technique, mais c'était intéressant.
Donc on ne peut pas imaginer voir Hugo devenir un personnage récurrent d'une série que vous feriez, où il se baladerait en faisant n'importe quoi avec son smartphone.
C'est marrant vous dites ça, parce qu'à Annecy, on est venu me voir en me disant « Ah, c'est super, il faudrait qu'il fasse d'autres villes. » Mais à 9 mois par tournage, pour faire une série pour le web, ça risque d'être très compliqué.
En tout cas, vous n'avez pas souvent vu, vous n'avez peut-être jamais vu des boules à neige comme celles qu'on voit dans Atomic Tour. Vous verrez qu'il faut bien faire attention quand on fait l'urbex, que les portes derrière soi ne se soient pas refermées, et puis que le bus ne vous attend pas toujours. Et la mort est pas loin parfois aussi. Donc un film qui va vraiment, oui, toucher à plein d'endroits différents. Un film que moi j'ai trouvé vraiment très réussi, bravo, et que je vous encourage à aller voir. Je vous le répète, mercredi et jeudi à l'Arvor, et puis vendredi au TNB. Sachez qu'il y a une rencontre avec Bruno Conet et puis les autres réalisateurs réalisatrices qui sont présents dans la même sélection. Et les films seront Du Monde au Balcon par Elia Eni, Banana Ninja par Gabin Vanitio, Julien Faure, Simon Charles et Camille Derieux, et puis aussi Glaucome par Chiara Conticini Menu. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos sur festival-film-animation.fr. Nous on va poursuivre avec encore un peu d'ambiance volée à Atomic Tour. Bonne chance pour la compétition, Bruno, et puis à dans 6 ans peut-être.
Voilà, peut-être même avant.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans la session info concert, on ira du côté de Binic puisque la programmation du Folk Blues Festival qui se produira les 24, 25 et 26 juillet prochains à Binic, proposé par la Nef des Fous, vient de tomber avec encore une fois une affiche due au dessinateur Zanzim. C'était le cas l'année dernière. Il électrifie un petit peu la thématique maritime avec un poisson qui va mordre. En tout cas, on va écouter quelques-uns des artistes de la programmation. Alors, je peux citer Cosmic Psychos comme un groupe absolument mythique qui vient d'Australie, Frankie and the Witchfingers des États-Unis pour un garage psyché assez énervé, et puis aussi des groupes australiens vraiment qui fait la part belle, hein, ce festival au groupe australien, puisque vous retrouverez Public House, Stevie Ripperman ou bien Where is Jimmy ainsi que Straight Arrows. Mais je vais vous faire entendre moi des titres de The Datsuns, des Robertas, de Clam, de Pai Pai, des Soledad Brothers et de Movie Star Junkies pour une première partie de cette balade dans la programmation du festival à Binic. On écoute pour débuter cette balade là les Datsuns, mythique groupe néo-zélandais qui au début des années 2000 mélangeait garage, high energy rock'n'roll et puis glam aussi. On écoute un morceau qui a été un fameux titre de ce début de carrière pour les Datsuns, le morceau Harmonic Generator. C'était en 2002 sur leur premier album, nul doute qu'ils le joueront forcément à Binic. Les Datsuns.
Come on!
des Costa-Ricaines au programme du Binic Folks Blues, c'est pas si souvent. Ce seront les Robertas, Glass Robertas, qu'on écoutait à l'instant. Un morceau assez récent, quand même, qui a 4 ans, mais bon, qui est un des plus récents pour Glass Robertas, qui, elle, aime bien s'inspirer de Brian Johnston Massacre, des Dandy Warhols, des Charlatans, qui a un côté psyché, un petit peu noisy pop, hein, aussi chez Glass Robertas. Vous entendiez à l'instant le titre Love is the Answer. Elles seront présentes pendant le festival Binic Folks Blues les 24, 25 et 26 juillet. Pour l'instant, on a toute la prog sur le site lanefdesfous.fr, mais on n'a pas l'ordre de passage. On poursuit avec ce qui se passera lors de ce même festival, les côtés un peu plus synthétiques peut-être avec les Australiens. Ils sont de Melbourne, de Clam. On écoutera les Montréalais de Pai Pai juste après, histoire de montrer que non, le festival à Binic, c'est pas du folk et du blues. On y retrouve aussi bien du post-punk, du garage, du high energy rock'n'roll et même des choses un peu plus synthétiques. On écoute Clam, le titre And I Try.
to change. I try not to lie, and I try to speak from deep inside.
Les Montréalais de Pai Pai à l'instant avec ce titre New York, vous les retrouverez au programme du Binic Folks Blues Festival. Il a lieu cette année, je vous le rappelle, les 24, 25 et 26 juillet prochains à Binic. On écoutait ce groupe qui mélange garage, un peu côté synthétique et punk, de très belle manière encore. Pai Pai, ça s'écrit P-Y-P. PY. À voir aussi le retour des Soledad Brothers, groupe qui, à l'instar des Dirt Bombs ou des White Stripes, c'est bien un des groupes qui a remis peut-être la ville de Détroit au centre du paysage rock'n'roll mondial. Il y a eu une pause assez longue, hein, de presque 20 ans pour les Soledad Brothers, à part peut-être quelques concerts ici ou là, concerts de la nouvelle année avec les Dirt Bombs, par exemple à Détroit. On les retrouvera le 26 juillet à Binic. Là, vous allez entendre un morceau Tour de Force, hein, qui mélange, on va dire, le Velvet Underground et Bob Dylan dans un côté très garage, très abrasif. C'est vraiment très très classe, ce gospel According to John. Les Soledad Brothers à Binic. All you non-believers, we're gonna give it to you Soledad style. Yeah, give it to me, boy. China wanna do is drink her up, all right. You get no lies, oh yeah. We'll be right back. Les Soledad Brothers à l'instant avec un long et vieux morceau Gospel According to John, un classique issu de leur premier album, c'était au tout début des années 2000. Ils seront présents à Binic pour le Folks Blues Festival et on termine cette balade rapide dans la programmation de l'édition 2026 du fameux festival breton avec les Italiens Movie Star Junkies et Chouchou de Beast Records qui programme un petit peu quand même des groupes qui jouent au festival de Binic. Les Movie Star Junkies avec un nouveau single sorti il y a quelques semaines à peine. Là, on les voit marcher carrément dans les pas des Black Lips avec ce titre The Void. Retrouvez toute la prog sur lanefdesfous.fr. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle émission Le Grand Tout, mercredi de 17h à 18h. D'ici là, retrouvez réécoute et playlist sur canalb.fr. Ciao!